parle souvent, et c'est une vérité enseignée par tous les papes, que du corps mystique de notre Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint est l'âme, l'âme de l'Église, c'est l'Esprit Saint, et je pense que l'on peut dire que le cœur de l'Église, c'est la messe. C'est à la messe que l'Église, eh bien, puise sa vie. C'est la messe qui fait battre, qui fait vivre l'Église. Et donc la messe, très certainement, est le cœur de l'Église. C'est pourquoi il est important, je crois, d'avoir une connaissance assez approfondie, autant qu'on peut approfondir le mystère, de ce grand mystère de notre foi, Mysterium Fidei, la messe. Et pour bien la comprendre, ce sera le but de notre conférence de ce soir, il faut de façon nécessaire, sinon on ne comprend rien à la messe, il faut la référer, la reporter bien à ce qu'elle rend présent, c'est-à-dire le sacrifice rédempteur, l'unique sacrifice rédempteur. Et de même, ce sacrifice rédempteur, cet unique sacrifice rédempteur, je crois que nous ne pouvons pas le comprendre si nous ne le situons pas dans l'état réel de l'humanité. Le Père Emmanuel, vous connaissez, je pense, le Père Emmanuel, tous ses opuscules. Le Père Emmanuel a écrit un très bel opuscule sur le naturalisme. Et dans son premier chapitre, il décrit justement l'état de l'humanité, l'état vrai de l'humanité. La foi nous enseigne que la nature humaine fut élevée à un état surnaturel par les grâces que Dieu se plut à verser sur nos premiers parents. Il voulut en effet qu'ils fussent non seulement ses créatures, mais ses amis, les premiers parents. Il leur donna la foi, l'espérance, la charité, trésors infiniment précieux par lesquels les hommes auraient à mériter les biens plus précieux encore, un bonheur infini dans le sein de Dieu même. Et ce que Dieu donna à Adam, il le destina à tous ses enfants, lesquels devaient recevoir du même coup la nature et la grâce. Et voilà le plan créateur. Dieu a créé l'homme en état de grâce, dans cet état que l'on appelle l'état de la justice originelle, donc état de grâce plus les dons préternaturels. C'est un état magnifique que nous avons du mal à imaginer, parce que quand nous nous regardons nous-mêmes, eh bien, nous sommes loin du compte. L'homme créé dans cet état de justice originelle est destiné, eh bien, à rentrer dans la gloire. Dès qu'au bout d'un certain temps, que nous ne connaissons pas, dès que l'homme aurait posé un acte d'adhésion à la volonté de Dieu, ça aurait suffi pour qu'il entrât aussitôt dans la gloire. C'était là ce que Dieu voulait. Et ce plan magnifique de Dieu fut dérangé par le péché d'Adam. Voilà, le péché originel. Ça, c'est le deuxième état de l'humanité. Oui. Premier état de l'humanité, c'est l'état de grâce, l'état de justice originelle. Deuxième état de l'humanité, eh bien, c'est l'état de chute. C'est l'humanité déchue, voilà, privée de ses dons que Dieu lui avait accordés dans la création. Il perd la grâce, c'est un péché mortel qu'ils ont commis, Adam et Ève. Péché mortel, donc ils perdent la grâce, et avec la grâce, ils ont tout perdu, tout. Tous ces dons préternaturels, la science, l'immortalité, l'impassibilité, l'intégrité, tout cela perdu. Donc, deuxième état de l'humanité, c'est l'état de chute, mais qui débouche aussitôt sur le troisième état de l'humanité, qui est l'état de la rédemption. État de la rédemption. Dieu n'a pas voulu qu'Adam et Ève, que l'humanité restât longtemps, trop longtemps, justement, dans cet état de déchéance. Aussitôt, eh bien, il les a fait pénétrer par la promesse qu'il a donnée, la promesse du Rédempteur, il les a fait pénétrer dans ce troisième état, l'état de rédemption. Mais malgré tout, depuis, continue le Père Emmanuel, tous ses enfants reçoivent de lui la nature, mais la nature dépouillée de la grâce, la nature entachée du péché, la nature détériorée et quant au corps et quant à l'âme. Quant au corps, devenu sujet aux maladies et à la mort, quant à l'âme, car elle est assujettie à l'ignorance, à la concupiscence et finalement à la mort éternelle. Voilà l'état dans lequel nous naissons tous, avec ce péché originel et ces blessures qui sont la suite du péché originel, blessures qui demeurent même après le baptême, ce qu'on appelle le foyer du péché. Voilà, c'est là le fondement, je dirais, de tout. Si on ne croit pas au péché originel, la messe est inutile. La rédemption est complètement absurde. La mort sur la croix de notre Seigneur n'a aucun sens si nous ne croyons pas au péché originel. Pourquoi ? Et je crois que dans l'époque que nous vivons, il n'y a rien peut-être de plus urgent, de plus important, bien que de prêcher justement le péché originel, de rappeler aux hommes, bien qu'ils sont malades, simplement. Ce n'est pas qu'on veuille les assommer, il ne s'agit pas de s'assombrir là, l'horizon, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont, il faut être lucide. Sinon, pourquoi la grâce? Pourquoi les sacrements? Pourquoi l'Église? Pourquoi la croix? Pourquoi la messe? Cela n'a aucun sens s'il n'y a pas le péché originel. Oui, censé donner de la foi, continue le Père Emmanuel, l'homme est à lui-même un mystère inexplicable. Inexplicable. Alors bien sûr, celui qui n'a pas la foi, eh bien, devant ce mystère inexplicable, eh bien, il se réfugie dans le naturalisme. Voilà. Et on va essayer de s'en sortir par les seules forces de la nature humaine. Et comment un malade peut-il se guérir lui-même? Bon. Voilà un peu cet état de l'humanité. Et le seul état réel dans lequel se trouve l'humanité aujourd'hui, eh bien, c'est cet univers de la rédemption. Univers de la rédemption qui inclut donc le péché originel, la mort de notre Seigneur et toute la vie de la grâce, la vie de l'Église, les sacrements. Et tout regard sur les hommes, sur le monde, qui ignore la chute et la rédemption, est un regard qui est faux. Faux. C'est un regard d'aveugle ou de borne ou de tout ce que l'on peut imaginer, mais c'est un regard qui est faux, qui est trompeur. Et toute vision du monde qui présenterait la condition concrète actuelle de l'humanité comme naturelle et normale est une aberration. La situation de l'humanité actuelle n'est pas normale. Nous ne sommes pas dans un état normal. Au contraire, et il faut le constater, nous sommes dans la condition d'un être qui a brisé un don splendide, un don merveilleux que Dieu lui avait fait, un être qui est déchu de façon irrémédiable de son premier état d'harmonie, de perfection, de sainteté. Un homme, un être qui est tombé dans un état plus dramatique encore que celui que l'on appelle l'état de pure nature. Oui, cet état de pure nature qui n'a jamais existé. Et pure nature, c'est-à-dire c'est l'homme créé par Dieu sans la grâce. Cet état-là n'a jamais existé. L'homme a été créé en état de grâce. Ce qu'on appelle l'état de pure nature, c'est imaginaire, oui. Ça aurait été la nature humaine créée par Dieu, mais sans la grâce. Cet état-là n'a jamais existé. C'eût été déjà un état bien, bon, mais l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui est pire que celui-là, que cet état de pure nature, car nous héritons d'une nature détériorée, une nature blessée. Cela dit, cet état a été quand même visité dès le lendemain de la chute par la grâce rédemptrice. Dieu est bon, et Dieu ne donne jamais de châtiment, de punition, de sentence, de condamnation, sans donner en même temps bien la possibilité bien de ne pas être condamné. Promesse donc du salut. Et donc il est important, je pense, pour nous, pour nous et pour le monde, pour toutes les âmes, d'abord de sauver, je crois, la foi dans le péché originel, car c'est un dogme de foi, le péché originel. On ne peut pas nier le péché originel sans être hérétique. Donc, sauver ce dogme, la foi dans le péché originel et la rédemption par Jésus-Christ. Saint Paul le dit aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre état n'est pas un état désespéré, mais toute notre espérance, toute l'espérance humaine est suspendue à notre Seigneur Jésus-Christ, Rédempteur. Voilà. Toute l'espérance des hommes passe par la personne de Jésus-Christ. Par naissance, nous héritons d'une situation, d'une condition qui est catastrophique. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de quoi être fier de nous, vous savez, les droits de l'homme ou je ne sais quoi. Mais par grâce, alors là, oui, tout homme peut entrer, au contraire, dans un état finalement infiniment meilleur. Et saint François de Sales, dans son traité de l'amour de Dieu, disait que l'état de rédemption, qui est donc notre état, vaut 100 fois mieux que celui de l'innocence. L'état de rédemption vaut 100 fois mieux que l'état de l'innocence. Car l'état de l'innocence, eh bien, il n'y a pas notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas l'Église, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas les sacrements, il n'y a pas la très sainte Vierge Marie, il n'y a pas les saints, il n'y a pas tout cela. Et donc l'état de rédemption est infiniment supérieur à l'état d'innocence. Mais cet univers de rédemption, qui est donc le nôtre, eh bien, dépend tout au long de l'histoire de la passion, de la croix, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est là-dessus qu'il faut nous arrêter un peu. Si nous considérons un peu ce qui s'est passé après ce péché de nos premiers parents, Adam et Ève, qu'est-ce que pouvait faire Dieu ? Et si l'on connaît un petit peu le bon Dieu, si on a compris un tant soit peu, ce qui fait l'essentiel de la vie de Dieu, ben Dieu ne pouvait rien faire d'autre que pardonner. C'est dans la nature de Dieu de donner et de donner. Et pardonner, eh bien, c'est donner au-delà. Puis aller encore plus loin que ce qu'on avait donné. Oui, pardonner. Et Dieu ne pouvait rien faire d'autre que pardonner. Sinon, c'eût été contre sa nature. Alors, ce pardon aurait pu se faire de mille autres façons. C'est bien évident. Dieu aurait pu, par exemple, faire semblant d'oublier l'offense, faire comme si les hommes n'avaient pas péché, et nous donner sans plus, mais nous redonner la grâce, voilà, sans que nous n'ayons rien à faire qu'à recevoir à nouveau la grâce que nous avions perdue. Mais alors, eh bien, cette offense serait restée sans compensation. Cette offense n'aurait jamais été compenser. Et au total, il serait resté vrai de toute éternité que Dieu aurait reçu de l'homme plus d'affront que d'amour. L'homme l'aurait offensé et n'aurait rien fait pour compenser cet affront. Si Dieu avait donné sa grâce sans que l'homme ne fasse rien. Donc l'homme, le seul acte finalement, l'acte le plus important que l'homme aurait posé à l'égard de son Dieu, aurait été de l'offenser. La chose n'est pas pensable. Et c'est là qu'apparaît justement bien ce dessein rédempteur. Puisque c'est un homme, une chair humaine, qui a offensé Dieu, eh bien le Fils de Dieu se fera chair. Il se fera homme, il prendra un corps dans le sein de la Vierge Marie. Et ce corps, par son union à la divinité de cette nature humaine, eh bien, de cette nature humaine créée de par l'union à la divinité, pourra monter une adoration et un amour qui seront, comme disent les théologiens, théandriques, c'est-à-dire divino-humains, des actes qui seront plus qu'humains, qui seront divino-humains, des actes humains, mais qui seront assumés par la divinité et qui donc acquerront de par ce fait eh bien une ampleur, une intensité, une plénitude dont l'homme le plus parfait, le plus saint est incapable. Et c'est cela qui donnera justement bien à l'acte, à tous les actes de notre Seigneur une valeur infinie et qui seul peut compenser l'offense que les hommes ces offenses que les hommes multiplient à l'égard de Dieu. C'est même une surcompensation, car un seul acte divin transcende infiniment tout l'ordre des actes simplement humains. Mais nous pouvons multiplier, nous, avec notre humanité, eh bien une foule d'actes mauvais. Tout cela sera infiniment surcompensé par un seul acte d'amour d'un homme Dieu. Nous ne sommes que de simples hommes, nous n'avons pas la divinité. Voici ce que dit saint Thomas d'Aquin, par exemple. Satisfaire pour une offense, c'est présenter à l'offensé une chose où il trouve autant et plus de joie qu'il n'éprouve de peine à l'offense. Or, le Christ, par son amour et son obéissance en la souffrance, a donné plus à Dieu que ne l'exigeait la compensation de l'offense de tout le genre humain. L'offense de tout le genre humain, prenez tous les péchés des hommes rassemblés, ça fait une belle somme d'offenses quand même. Eh bien, tout cela est infiniment compensé par un seul acte d'amour de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu, de l'homme, Dieu, en raison de l'union de l'homme à la divinité. Mais il est certain que malgré tout, bien cela va conduire notre Seigneur à une souffrance, quelque chose de terrible et que l'on a du mal à s'imaginer, à se représenter. Les grands mystiques même, qui ont contemplé la passion, l'agonie de notre Seigneur, ont tenté de nous décrire ce qu'ils avaient compris, mais cela reste encore infiniment loin de ce qu'a été la réalité de la souffrance de notre Seigneur. Et pourquoi ? Pourquoi fallait-il donc une souffrance aussi terrible ? Est-ce que vraiment il fallait que notre Seigneur souffrit autant que cela ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu se contenter d'une souffrance un peu moins grande quand même ? Et quelle est la réponse ? Eh bien, il n'y en a qu'une, c'est l'amour. C'est l'amour. Demandez à quelqu'un qui aime, il vous répondra. Il n'y a pas d'autre réponse que l'amour que Dieu porte à sa créature, l'amour que notre Seigneur nous porte. Il a voulu, justement, pour véritablement être un des nôtres, devenir un des nôtres, un homme, bien qu'il soit vraiment notre frère, notre ami, quelqu'un dont nous n'ayons pas peur de nous approcher. Il a voulu précisément bien descendre jusqu'au fond même de la tragédie humaine, la tragédie dans laquelle l'homme est, cette tragédie qu'il vit depuis le péché originel. Eh bien, cette tragédie, notre Seigneur a voulu la connaître lui aussi. Voilà, pour être vraiment un des nôtres, pour compatir. L'Épître aux Hébreux a des passages très beaux sur cette question-là. Ouais. Notre Seigneur a voulu vraiment être identifié à l'homme hormis le péché. Bien sûr, il n'a pas commis le péché, mais à part le péché, tout ce qui fait partie de la vie humaine et de la tragédie de l'homme, il a voulu le connaître. Il n'est pas venu pour éliminer notre misère, notre détresse. Non, il n'est pas venu supprimer la souffrance. Non, il est venu simplement l'assumer, la faire sienne et l'illuminer. Par sa présence, précisément, en la connaissant, en la faisant sienne, eh bien, toute la souffrance des hommes, il l'a faite sienne, il l'a vécue dans son humanité, avec une intensité que nous ne pouvons pas comprendre, pour justement y mettre peut-être un peu de sa présence, de sa lumière, de sa douceur, de sa force, pour la remplir de sa grâce. Toute souffrance, maintenant, vécue avec notre Seigneur, est porteuse de grâce. Et c'est ça la croix. Toute souffrance n'est pas une croix, attention. La souffrance est une croix si elle est vécue en union avec notre Seigneur. Là, elle est porteuse de grâce. Mais sinon, la souffrance en elle-même n'est pas une croix. La souffrance peut être au contraire, malheureusement, le lieu de la révolte. Hélas, pour celui qui ne la vit pas avec notre Seigneur, et là, ce n'est pas une croix. C'est une souffrance, mais ce n'est pas la croix. La croix, elle est rédemptrice, bien sûr. Il a été éprouvé en tout, conformément à sa ressemblance avec nous, à l'exception du péché, dit saint Paul aux Hébreux. Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Ou saint Jean, le Christ nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et le Christ lui-même nous avait dit, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Voilà un petit peu ce que c'est que l'amour de Dieu, cet amour auquel nous avons parfois du mal à croire et pourtant. Et on a du mal à imaginer à quel point Dieu nous a aimés, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, le bon Dieu, de nous aimer à ce point-là ? Et demander à quelqu'un qui aime, on ne se pose pas de questions quand on aime, hein, ça. C'est bien clair. Hein. Et c'est ce mystère très... mystère insondable, hein, de l'amour rédempteur et qui ne s'en trouve que devant les âmes vraiment contemplatives. Hein, c'est sûr, c'est difficile de bien pénétrer ce grand mystère de la charité, hein, cette charité que Dieu porte à l'humanité. Mais essayons, essayons chacun de notre côté bien d'avancer un peu dans la compréhension de ce mystère de l'amour rédempteur. Hein. Mystère de ce que Jésus-Christ appelle son heure. C'est troublant, cet appétit que l'on voit chez notre Seigneur dans l'Évangile, cet appétit qu'il avait d'arriver à son heure, l'heure de Jésus-Christ. Cette heure à laquelle, précisément, bien Jésus-Christ va fonder l'univers de la rédemption en mourant sur la croix, c'est cela qu'il appelle son heure. C'est l'heure où il va vraiment poser l'acte rédempteur. Tout au long de sa vie, il parle de son heure. Et cette heure, c'est l'heure de sa passion. C'est l'heure, justement, eh bien, où il va nous aimer avec le plus d'intensité. Où il va aimer son Père, bien sûr, et aimer les hommes avec la plus grande perfection, son heure. Voilà à quoi il aspire. Et c'est normal. Il aspire à nous aimer vraiment au maximum, jusqu'à la fin, comme le dit saint Jean. Son heure. Dès les noces de Cana, il nous parle de cette heure. À Cana, vous voyez, son heure n'est pas encore venue. Non, non, mon heure n'est pas encore venue. Et malgré tout, Notre-Dame va peut-être anticiper un petit peu l'entrée de notre Seigneur dans sa vie publique. Oui, cette heure, combien de fois cette mention revient, quand les hommes voulurent l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et c'est magnifique, voyez, cette heure de notre Seigneur, mais cette heure, bon, nous le verrons, il la connaît, il a décidé à quelle heure, à quel moment elle surviendrait, et il domine même sa passion. Il ne permet pas, eh bien, qu'on l'arrête avant que son heure soit venue. Et il ne permettra pas qu'on le mette à mort avant que son heure soit venue. C'est lui-même qui décidera de cela. Donc, personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. La voici venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais c'est très beau cela, nous le reverrons aussi. C'est la même heure, vous voyez, la même heure de la passion et de la gloire. C'est la même réalité, en fait. Oui. Notre Seigneur rentrera dans sa gloire à l'heure où il nous aimera le plus. Il sera glorifié véritablement dans sa passion. La voici venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Oui, c'est toujours ce sorte de combat, si l'on peut dire, entre l'humanité de notre Seigneur qui tremble, bien sûr. Son humanité tremblait devant la souffrance et devant la mort. L'humanité, c'est naturel, cela, de redouter, de détester la souffrance et la mort. Donc sa volonté naturelle, si l'on veut, qui avait peur de cette heure, mais sa volonté surnaturelle et sa volonté divine qui est le contraire. Voulait cette heure, désirait cette heure. Oui. Donc, et que dire, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Et un peu plus loin, là, c'est dans sa prière sacerdotale qui commence justement par ces mots, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Pour que ton Fils te glorifie et que par le pouvoir sur toute chair que tu lui as conférée, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Voilà pourquoi il aspirait à cette heure. Oui. Parce que c'est l'heure où il pourrait donner la vie éternelle à tous ceux que son Père lui a donnés. Et oui, c'est l'heure de son passage à son Père. Et avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. Voilà. Son heure était venue. Et cette heure, bien sûr, notre Seigneur la connaît, bien sûr. Fils de Dieu, par son union à la divinité, il connaît cette heure. Et il l'a prédit même à ses disciples. Il leur dit cela. Vous savez que dans 2 jours aura lieu la Pâque et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc il leur annonce déjà, eh bien, que son heure est proche. Il sait quand cette heure interviendra. Il en connaît même toutes les circonstances. Et c'est lui-même qui arrange le rite un petit peu des derniers instants qu'il va passer avec ses disciples. Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est ma salle ? Donc, lui-même, il dispose un peu les choses, toutes les circonstances, eh bien, de la préparation de son heure. Et cette heure, eh bien, le souci de cette heure le suit depuis l'instant de son incarnation, dès sa conception. Dès sa conception, saint Paul le dit dans l'Épître aux Hébreux, ses premiers mots. Que dit notre Seigneur, oui, dans son humanité, notre Seigneur, ces mots qu'il adresse à son Père du ciel, dès son incarnation, dès sa conception. Le sang des taureaux et des boucs est impuissant à enlever le péché, donc référence au sacrifice de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as formé un corps, et voici que je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » dès l'instant de sa conception. C'est une chose inimaginable, cela. Hein. N'oublions pas que dès l'instant de sa conception, hein, dès le fiat de Notre-Dame, notre Seigneur a eu la vision béatifique. Bon, bien sûr, nous, quand on est dans le sein de notre maman, on voit rien du tout. Hein. Et lui, il voyait tout. Il voyait tout. Dans le sein de notre... Il voyait tout. Et dès cet instant-là, bien, il s'est offert à son Père en sacrifice, en oblation. Me voici pour faire au Père votre volonté. Voilà, dès cet instant-là, bien, son heure, il la voyait et il était tendu, porté vers cette heure. Et cette heure également, qui est l'heure rédemptrice, la seule heure qui est véritablement rédemptrice, eh bien, c'est elle qui récapitule en elle toutes ses actions passées. Voici ici un texte d'un théologien du XVIe siècle, Dominique Soto, qui explique cela de très belle façon, très simple. Vous voyez, cette heure qui résume et qui récapitule toute la vie de notre Seigneur. Pour ce qui est du mérite et de la satisfaction, il faut considérer la vie entière du Christ, bien qu'elle soit composée de plusieurs actions partielles, comme un acte total unique qui trouve son accomplissement dans la Passion. En effet, puisque le Christ venait racheter le péché d'Adam, dont la conséquence était la mort, il convenait qu'il apportât la pleine satisfaction du péché dans sa mort. Il serait insuffisant de dire que la Passion du Christ a eu simplement plus de valeur méritoire et satisfactoire que les actes précédents du Christ, car c'est au vrai par elle seule que notre rédemption s'est accomplie. Si donc, en raison de la personne du Christ, chacun de ses actes avait de soi une valeur infinie, néanmoins, effectivement, chacun d'eux était offert comme une partie du tout que la Passion devait achever. Vous voyez, donc il faut concevoir la vie du Christ comme finalement un acte unique. Bon, pour nous, bien sûr, nous la voyons se dérouler sur 33 années, mais n'oublions pas que la vie humaine de notre Seigneur est en même temps vie divine. Or, la vie divine, elle est éternelle. Donc, la vie de notre Seigneur a... C'est assez compliqué, peut-être, mais elle se déroule aussi au rythme de l'éternité. Donc, en fait, c'est un acte unique, la vie du Christ. Et quel est l'acte unique de la vie du Christ? Eh bien, c'est l'acte rédempteur. C'est pour cela qu'il est venu. L'incarnation sans la rédemption n'a pas de sens. Pas de sens. Et pourquoi il est faux, absurde et à la limite hérétique, vous voyez, de dire eh bien, que par le seul fait de l'incarnation du Christ, tout homme est justifié. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui que ce soit qui le dise, même s'il porte une soutane blanche. C'est pas vrai, ça. L'incarnation ne suffit pas. Il faut la rédemption. L'incarnation, de par elle-même, ne suffit pas. C'est pas par l'incarnation que nous sommes justifiés, c'est par la rédemption. Bon. Et oui, c'est là l'heure du Christ. Cette heure, c'est pas l'heure de son incarnation, c'est l'heure de la rédemption. Et c'est pour cela qu'il est venu. Pas l'oublier, cela. Et cette heure également récapitule toute l'histoire du monde. Toute l'histoire du monde est récapitulée dans cette heure. Ouais. C'est quelque chose de confondant. Saint-Irénée, le grand Saint-Irénée, il faut bien le citer un peu ici quand même. Vous voyez ce qu'il dit, par exemple, Saint-Irénée, dans son Contra Hereses. Si la chair n'avait dû être sauvée, le Verbe de Dieu ne se serait nullement fait chair. Si le sang des justes n'avait dû être recherché, le Seigneur n'aurait pas eu de sang. Mais parce que dès l'origine le sang a crié, Dieu dit à Caïn, lorsqu'il eut tué son frère, « La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. » Et parce qu'il y aurait à rendre compte de leur sang, il dit à ceux qui entouraient Noé, « Le sang de vos âmes, j'en demanderai compte aux mains de tous les animaux. » De même aussi, le Seigneur disait à ceux qui devaient verser son sang, « Il sera demandé compte du sang de tous les justes qui a été répandu sur la terre, » depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bakari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela viendra fondre sur cette génération. Et saint Irénée continue en disant, c'était dire qu'il récapitulerait en lui-même le sang répandu dès l'origine par tous les justes et prophètes et que lui-même demanderait compte de leur sang. De cela, il ne serait pas demandé compte si cela aussi ne devait être sauvé. Et le Seigneur n'aurait pas récapitulé en soi ces choses s'il ne s'était fait lui-même chair et sang selon la création initiale, sauvant à la fin en lui ce qui au début avait péri en Adam. Vous voyez, il récapitule en lui tout cela. Toute l'histoire des hommes, tous les sacrifices des hommes, eh bien, sont récapitulés dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Jérôme expose la même doctrine. Toute l'économie qui a précédé le monde et qui a été ensuite instaurée dans le monde pour les créatures, tant invisibles que visibles, annonçait la venue du Fils de Dieu. C'est donc dans la croix du Seigneur et dans sa passion qu'ont été récapitulées toutes choses ont été enveloppées dans cette récapitulation. Et cette œuvre résume vraiment toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi cette devise de saint Pédis, c'est il y a des magistrats, oui, omnia recapitulare in Christo, ou omnia instaurare in Christo, selon le mot de saint Paul, tout récapitulé, tout restauré dans le Christ. Parce que c'est lui qui sauve tout. Dans ce seul acte, eh bien, toute l'histoire de l'humanité se trouve récapitulée et rachetée. Et en même temps, cette heure qui est celle de la passion, on ne peut pas non plus la séparer. La séparer de la résurrection et de l'ascension. Tout est inclus, voyez, dans l'heure de Jésus-Christ. Cette mort de notre Seigneur, pour être vraiment rédemptrice, doit pré-contenir, inclure en elle, oui, eh bien, la résurrection et l'ascension. Cette mort, elle est pour la félicité, elle est pour la béatitude, et elle inclut en elle-même la gloire et la béatitude de Jésus-Christ et de toute l'humanité. Et c'est à ce titre-là qu'elle est véritablement cause de notre salut. Elle est véritablement cause de notre salut parce qu'elle pré-contient en elle-même la gloire. Cette mort de Jésus-Christ. Tout cela, vous voyez, on peut dire, la passion, la mort, la résurrection, l'ascension, sont les moments différents, les divers moments d'un acte unique. Toujours pareil, cet acte qui est unique, qui commence dans la douleur et qui s'achève dans la gloire. Et la passion résume en elle tout notre salut. Ouais. La liturgie de l'Église exprime cela. Bon, à sa façon, il est difficile d'exprimer, ouais. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas dans la liturgie de la messe, quand on parle de répétition, de doublé, etc. Mais c'est comment voulez-vous que nous exprimions dans un langage humain, ouais, quelque chose d'éternel, un acte unique? On ne peut pas. Un mot humain ne suffit pas pour exprimer tout ce qu'il y a dans un acte éternel. Donc il faut, eh bien, développer tout cela. Donc, ce ne sont pas des répétitions, mais on essaie un petit peu de déplier, pour le rendre compréhensible par les hommes, ce qu'il y a de contenu dans un acte unique. Et ce que dit, par exemple, la liturgie de la messe. La liturgie de la messe ne sépare pas, voyez, par exemple, dans la prière de l'offertoire, cette prière qui conclut l'offertoire, le Suscipe Sancta Trinitas. Suscipe Sancta Trinitas Ancoblationem. Quam tibi offerimus ob memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Jesu Christi Domini Nostri. Voilà, recevez, Trinité Sainte, cette oblation que nous vous offrons en mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension. Oui. On fait mémoire, eh bien, de ces trois actes, mais pour l'Église, ça n'en fait qu'un. On fait mémoire de ces trois actes contenus dans un seul qui est, eh bien, cet acte de l'heure de Jésus-Christ. Ou bien encore dans cette prière qui suit immédiatement la consécration, unde et memores, c'est la même chose. Unde et memores, Domine, nos servitui, sed et plebs tua sancta, eius dem Christi, filii tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab infernis resurrectionis, sed et in cielos gloriosae ascensionis. Voilà, donc pourquoi faisons mémoire. En français, c'est pas beau en français, mais enfin, etc., de quoi nous faisons mémoire. Eh bien, aussi bien de sa bienheureuse passion, mais également de sa résurrection et de sa glorieuse ascension. Et on fait mémoire également bien de ces trois réalités, mais qui n'en font qu'une seule dans l'esprit, dans le cœur de l'Église. Et donc, vous voyez, la passion contient en elle-même c'est la résurrection et l'ascension. Et pour saint Paul, cela il l'exprime sans cesse. Oui. Chaque fois qu'il parle de la mort de notre Seigneur, il la met toujours en relation avec la résurrection. Il a été livré à cause de nos iniquités et il est ressuscité à cause de notre justification. Et c'est le même acte, cela. Il meurt à cause de nos péchés, mais pourquoi ? Pour nous justifier. Mais qu'est-ce qui nous justifie ? C'est la résurrection, véritablement. Oui. Donc, il faut la mort et la résurrection. Ou encore, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour nous unir à sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle, la mort et la vie, la mort et la résurrection. Et cela est très beau dans le rite du baptême. Le baptême est un mystère de mort et de vie. Dans le baptême, nous sommes ensevelis dans la mort du Christ, nous mourons au péché et nous renaissons à la grâce, nous renaissons à la vie. C'est une résurrection, le baptême. C'est une mort et une résurrection dans le même acte. Voilà, nous refaisons, dans le baptême, ce que notre Seigneur a fait sur le calvaire. Oui. Il meurt et il ressuscite dans le même acte. Et c'est pourquoi saint Paul le dit, vous le savez, cela, je n'ai pas jugé bon de rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà. Pourquoi ? Parce que la croix, la crucifixion du Christ inclut notre salut, elle inclut la résurrection, l'ascension et notre glorification. Et dans la même épître, c'est la première aux Corinthiens, il annonce justement aux Corinthiens la gloire du Christ, remettant à la fin le royaume à Dieu et à son Père. Et cela, c'est l'ordre du Père. C'est l'ordre que Jésus a reçu de son Père. Dieu a donné à Jésus-Christ cet ordre de donner sa vie pour la reprendre. Il donne sa vie et il la reprend. Et cela dans le même acte. C'est cette heure, toujours pareil, cette heure, cette passion qui s'ouvre sur la glorification et qui est déjà comme confondue avec elle. Et vous avez cet épisode, là, dans les derniers moments de la vie de notre Seigneur, très, très étonnant, mais oui, que vous comprendrez peut-être. Avec cela, quand Judas fut sorti du cénacle, oui, Judas sort. Et que dit Jésus-Christ à ce moment-là ? Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et au moment où Judas sort pour trahir notre Seigneur, c'est maintenant que le Fils de l'homme a été glorifié. Et oui, où est-elle la gloire de Jésus-Christ ? Dans la croix, il a sa gloire. Eh bien, c'est à ce moment-là, au moment où Judas va le trahir, qu'il est véritablement glorifié. C'est pour cela qu'il est venu. Et cette heure, bien sûr, elle est dans le temps. Elle sera vécue dans le temps, concrètement, par notre Seigneur. Mais cette heure, elle domine le temps. Elle domine tout le temps, parce qu'il est fils de Dieu, toujours. Et elle domine le temps par anticipation et par dérivation. Par anticipation pour tous les justes qui ont précédé notre Seigneur. Tout l'Ancien Testament est déjà dominé par la croix du Christ. Est déjà sauvé, est déjà justifié par la croix du Christ, mais par anticipation. Si on peut dire, l'heure de Jésus-Christ, elle domine le temps. Oui. Elle est éternelle, cette heure. Elle domine le temps et donc ses effets s'applique aussi bien avant elle qu'après elle. Et donc les justes de l'Ancien Testament ont été justifiés par la foi au Christ. Ils ont été justifiés par le Christ, par l'heure du Christ. Et cela est bien clair, cela a été défini même pour ce qui est de Notre-Dame, par exemple, qui a été préservée du péché originel en prévision des mérites de son Fils. Oui. Donc, oui, elle a été, si on peut dire, la première des rachetés, alors que son fils n'était pas encore, pas même conçu. Oui. En prévision des mérites de son fils, elle a été préservée du péché originel. Donc déjà, la passion de son fils portait ses fruits, produisait ses fruits, appliquait ses fruits, sur sa sainte mère, pour la préserver du péché. Et cela vaut pour tous les justes de l'Ancien Testament. Et ensuite, eh bien, cette même heure va avoir ses effets. Eh bien, là, nous le comprenons un peu mieux, bien sûr, parce que pour nous, c'est plus dans nos façons d'être et de comprendre. Et après, hein, les effets postérieurs dans le temps, donc sur tous les temps, qui s'écoulent depuis la rédemption, depuis la croix, depuis le calvaire. Et tous les hommes qui sont justifiés maintenant, tous les hommes qui sont sanctifiés, le sont par dérivation de la grâce du sacrifice de notre Seigneur. Sans effusion de sang, pas de rémission. Saint Paul dit cela dans l'Épître aux Hébreux. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Et cette loi continue à s'appliquer aujourd'hui. Et ce sang, eh bien, ce n'est plus celui des boucs et des taureaux, de je ne sais quoi, mais c'est celui de l'agneau. Et donc, si depuis la rédemption, eh bien, le péché recommence dans l'humanité, et malheureusement le péché continue dans chacune des générations, eh bien, il faudra que la grâce, que l'effusion de la croix, que les fruits de la croix, cette croix qui est unique du côté de notre Seigneur, eh bien, que tout cela puisse continuer à s'appliquer à tous ces hommes qui aujourd'hui continuent à pécher. Il faudra que la croix, si l'on peut dire, nous le reverrons plus tard, que la croix rentre en contact avec chacune des générations qui pêchent aujourd'hui. C'est la raison d'être de la messe, justement. Vous voyez, cette heure de notre Seigneur, et cette heure dans laquelle il est à la fois prêtre et victime, le Christ médiateur, médiateur de notre salut, médiateur de notre rédemption, médiation. La médiation du Christ, et nous avions besoin justement de ce médiateur, hein, pour qu'un sacrifice humain soit agréable à Dieu. Et c'est sûr, si on imagine un peu, si on essaie de comprendre qui est Dieu, et qu'est-ce que nous sommes, nous, pauvres êtres humains, si nous pouvons accumuler toutes les offrandes humaines les plus belles que nous ayons, mais qu'est-ce que c'est pour Dieu cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela représente? Rien. On peut lui offrir tous les fruits de la terre. On peut lui offrir tout le fruit du travail des hommes ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que le bon Dieu en a à faire? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est dérisoire aux yeux de Dieu. Comment cela peut-il décider le bon Dieu à nous pardonner ça? Non, il n'y a qu'une chose qui pouvait vraiment compenser l'offense des hommes. C'est précisément bien une offrande qui soit plus qu'humaine. Une offrande de quelque chose d'humain, bien sûr, d'une vie humaine, mais par quelqu'un qui soit plus qu'humain, qui donne justement à cette offrande une valeur infinie. Et c'est là justement la nécessité de ce médiateur, qui est à la fois homme et Dieu, et qui fait donc le pont entre les deux, le pontife, c'est cela, pontifex, c'est lui qui fait le pont, qui relie l'homme à Dieu. Et le rôle du médiateur, précisément, eh bien, c'est bien cela, c'est de conduire les hommes à Dieu, et de donner Dieu aux hommes, oui, faire cet échange, si l'on peut dire, donner les hommes à Dieu et ensuite donner Dieu aux hommes. Ça, c'est le rôle du médiateur, c'est le rôle du prêtre. Et notre Seigneur est le souverain prêtre, médiateur, unique médiateur. Donner les hommes à Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie justement susciter dans le cœur des hommes une offrande, une imploration, une supplication, une adoration, qu'il va lui-même attirer au sein de la sienne pour l'incorporer à sa propre offrande, à sa propre adoration, à sa propre imploration pour la présenter à Dieu en la rendant justement pure et agréable à son Père. Oui. Attirer à lui tous nos cœurs, toutes nos offrandes, toutes nos prières, toutes nos réparations, inclure tout cela dans sa propre offrande à lui pour que nos offrandes deviennent agréables à Dieu et à ce moment il peut les présenter à son Père. On ne peut pas présenter à Dieu une offrande qui lui soit agréable si elle n'est pas passée par l'offrande de Jésus-Christ. C'est la nécessité de la médiation de Jésus-Christ. C'est pourquoi toutes nos oraisons, toutes nos prières s'achèvent toujours par « Père Dominum Nostrum Iesum Christum ». On ne peut pas aller à Dieu sans passer par le Fils. Et donc, le rôle du médiateur, c'est de donner les hommes à Dieu en attirant d'abord les hommes à lui, et ensuite, eh bien, ma foi, les donner, les conduire à Dieu. Et ensuite, donner Dieu aux hommes, ça c'est la réponse, donner Dieu aux hommes, car, dit Saint Paul encore, ayant été exaucé à cause de sa révérence, oui, à cause de sa soumission, de sa déférence envers son Père, de son obéissance envers son Père, il était exaucé. Et à ce moment-là, eh bien, c'est lui eh bien, qui reçoit de son Père tous les trésors de grâce qu'il peut distribuer, qu'il veut donner aux hommes, tous ces trésors de la grâce que Dieu tenait en réserve, qui était un peu bloqué, si on peut dire, dans son paradis par notre péché. Eh bien, voici que c'est lui qui a rompu la digue et qui permet à la miséricorde eh bien, de découler dans l'humanité, sur l'humanité. Donc, c'est lui qui donne Dieu aux hommes. Il donne les hommes à Dieu, il donne Dieu aux hommes. Et on peut dire, et c'est vrai cela, que notre Seigneur a réalisé le programme qu'il annonçait à Saint Jean-Baptiste. Quand Saint Jean-Baptiste lui disait, non, c'est plutôt vous qui devez me baptiser, non, il faut accomplir toute la justice. Voilà ce qu'a fait notre Seigneur. Il a pris sur lui l'accomplissement de toute la justice. Il a accompli la justice, lui, afin que la miséricorde soit libre de se répandre sur la terre. Voilà. Pour nous laisser la miséricorde. Il faut le faire quand même. Et la croix, c'est la croix qui est le lieu de passage de toute la prière du monde. Toute la prière du monde doit passer par la croix pour accéder à Dieu. Et la croix est également toute la réponse de Dieu au monde. Et pourquoi vouloir passer à côté de la croix? C'est s'égarer. La croix est vraiment, c'est le point de contact entre le ciel et la terre. C'est là que nous avons été sauvés et c'est par là qu'il faut passer pour accéder au Père. Et c'est par là que le Père nous répond. C'est par la croix qu'il nous communique ses grâces. Il faut venir là au pied de la croix pour recevoir la grâce. Eh oui. Donc souverain prêtre, mais également victime, prêtre et victime, on peut dire même souveraine victime. Et c'est là aussi, eh bien, c'est dans cet acte victimal, nous pouvons considérer notre Seigneur à la fois, dans l'acte du sacrifice et l'acte d'amour. C'est la même réalité, sacrifice et acte d'amour. Et l'Église le chante, cela, dans l'hymne du temps pascal, cette très belle hymne, Ad regia sanida pes, almique membra corporis amor sacerdos immolat. Beau cela. Ouais. C'est l'amour prêtre qui immole les membres de son saint corps. C'est l'amour prêtre. C'est l'amour qui fait de lui le prêtre, mais en même temps la victime. Ouais. C'est un acte sacrificiel que cette mort de notre Seigneur, dont notre Seigneur est le prêtre, mais dont il est également la victime. Et on ne me l'ôte pas, dit-il, pour sa vie. Si le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. On ne me l'ôte pas, mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. C'est magnifique, cela. Quand on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, c'est notre Seigneur lui-même qui donne sa vie, qui donne son âme et qui la reprend quand il veut. Il dépose son âme quand il veut, librement, et il la reprend quand il veut. Il est vraiment maître de sa passion, maître de sa mort et maître de sa résurrection. Bien sûr, les hommes qui vont le mettre à mort le mettront à mort, c'est vrai, mais ils le mettent à mort parce qu'ils le veulent bien. C'est lui qui décide finalement de l'heure, même quand il est en croix. Les hommes à ce moment ne veulent plus faire grand-chose qu'attendre qu'il meure. Et bien, c'est lui qui décide de l'instant où il va déposer son âme entre les mains de son Père. Et personne d'autre. Et tout à fait librement. Et c'est là que resplendit la majesté, la souveraineté de notre Seigneur. Alors que c'est l'homme le plus brisé du monde. Ouais. Et en fait, c'est l'homme le plus puissant du monde. Car c'est lui qui librement dépose son âme entre les mains de son Père. Nous ne pouvons pas faire une chose pareille. L'heure de notre mort, c'est Dieu qui en décide. Nous n'avons aucun pouvoir sur elle. Et lui, il avait tout pouvoir sur sa vie. Et également, c'est lui qui librement va reprendre son âme et la restituer à son corps pour le ressusciter. Et oui, prêtre et victime. Et c'est cela justement qui fait que la mort du calvaire n'est pas quelque chose d'horrible. Bien sûr, c'est en soi, c'est quelque chose d'horrible, c'est vrai, mais c'est en fait quelque chose d'adorable. Et c'est beaucoup plus adorable qu'horrible. Ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Oui, c'est lui qui offre son sacrifice. Ce ne sont pas les hommes, pensez donc. Ceux qui l'ont mis à mort n'ont pas offert un sacrifice. C'est lui qui a offert son sacrifice. Eux, ils l'ont mis à mort, ils ont commis un crime. Mais lui, il a offert un sacrifice. Et cette passion est un acte d'amour. Il s'offre par amour, acte d'amour. Ah, les Saintes Écritures le disent à satiété. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Il les aima jusqu'à la fin, jusqu'à épuisement de l'amour. On ne pouvait pas aimer plus que cela. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Saint Jean le dit. Saint Jean, voilà, voici à quoi nous avons connu l'amour. Il a offert sa vie pour nous. Voilà à quoi nous avons connu l'amour. Il a offert sa vie pour nous. C'est ce que notre Seigneur disait déjà à Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde. Sic Deus dilexit mundum. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a aimé le monde à ce point de lui envoyer son Fils unique. Son Fils unique. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Il n'a qu'un Fils, et bien il nous l'envoie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, acte sacrificiel et acte d'amour, qui n'en font qu'un, bien sûr. Suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé, Saint Paul aux Éphésiens. Il s'est livré lui-même pour nous en offrant des sacrifices à Dieu comme une senteur parfumée. Et Sainte Catherine de Sienne avait cette belle image, mais pour bien montrer l'union des deux, du sacrifice et de l'acte d'amour. Elle disait en gros bien que ce que l'on offre à quelqu'un, ce que l'on présente, ce n'est pas de l'eau seule, ni un vase seul, mais c'est l'eau dans le vase. Bien sûr, bon, c'est l'eau dans le vase que l'on présente à quelqu'un, que l'on veut honorer pour qu'il se purifie les mains ou je ne sais quoi, peu importe. Oui. Donc c'est l'eau dans le vase, oui. Eh bien le vase c'est le sacrifice et l'eau dans le vase c'est l'amour. Et les deux sont inséparables, l'eau et le vase, les deux sont inséparables, ne font qu'un pratiquement, mais ce qui est le plus précieux, bien sûr, c'est le contenu. Ce n'est pas le contenant, ce n'est pas le vase, et c'est l'amour, justement. Et donc l'amour est plus précieux que le sacrifice. Pourquoi ? Ce qui compte, ce n'est pas tellement le sacrifice, mais c'est l'amour contenu dans le sacrifice. Et cela vaut pour nous. Il est bien de se sacrifier, mais si c'est sans amour, ça ne sert strictement à rien. C'est peut-être de la vanité, de l'orgueil, tout ce qu'on peut imaginer. Quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Nickel, rien. Et c'est la charité qui donne sa valeur à tout ce que nous faisons. Alors, ben, peu importe le vase. Un jour, d'ailleurs, ce vase se brisera. Il n'y aura plus de vase. Il n'y aura plus que la charité. Voilà ce grand sacrifice de notre Seigneur et cette heure de notre Seigneur, sacrifice, oui, sacrifice d'amour. Et ce qui nous sauve à la croix, ce qui nous sauve dans la passion du Christ, ce n'est pas tellement le sacrifice, mais c'est l'amour. Attention, n'oublions pas cela, c'est la charité du Christ qui nous sauve. Et cette charité, bien sûr, qui est au sommet de sa perfection dans l'acte du sacrifice, mais ce n'est pas le sacrifice lui-même, c'est l'amour. Oui, qui commande ce sacrifice, qui anime ce sacrifice qui nous sauve. Et c'est sûr que Dieu n'a jamais vu monter vers lui un acte d'amour aussi parfait que celui qui est monté du Christ sur la croix, c'est évident. Vous pouvez prendre tous les saints de la terre, tous les saints du ciel, ils aiment Dieu pourtant à la perfection, mais l'amour qu'ils ont pour Dieu, c'est rien à côté de l'amour qui était dans le cœur du Christ sur la croix. Et c'est cela qui nous sauve. Cet amour d'un Dieu qui passe par un cœur humain et qui donc devient un amour humain. Mais amour à la fois humain et divin. Et si nous, hommes, nous sommes sauvés, c'est parce qu'il y a un homme eh bien, qui a été capable d'aimer, eh bien, comme un Dieu. Très simple, tout cela. Eh oui, mais ça, c'est tout le mystère. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut le méditer. Bon, vous comprendrez bien un petit peu, quand même, j'espère. Hein, un petit peu. Eh oui, le Christ en croix. Hein, c'est pourquoi le cœur de notre méditation, de notre contemplation, de notre adoration, c'est toujours la croix. Mais le Christ sur la croix, attention. Hein. Pas la croix sans le Christ. Hein, ça ne sert à rien, ça. La croix avec le Christ. Ce qui nous sauve, c'est le Christ. Ce n'est pas la croix. C'est le Christ sur la croix. Bon, voilà. Eh oui. Et pourquoi? Mais parce que le Christ sur la croix, le Christ en croix, est un avec son Père. L'unité de la divinité, l'unité de la substance, l'unité de la charité, le Christ en croix est un avec le Père à qui le sacrifice est offert. Et en même temps, il se faisait un avec ceux pour qui le sacrifice était offert. Mais il fait un avec son Père à qui le sacrifice est offert. Et en même temps, il se fait un avec nous, pour qui le sacrifice était offert. Et il était en même temps celui qui offrait et ce qui était offert. Voilà ce qui fait dire la perfection du sacrifice du Christ. Ça, c'est saint Augustin qui dit cela. Ça, c'est tout à fait du saint Augustin, ce genre de choses. Mais c'est très, très juste. Hein. Saint Thomas d'Aquin cite justement ce passage de saint Augustin dans une question qu'il se pose sur la passion du Christ. Est-ce qu'elle a produit ses effets par mode de sacrifice? Et il répond, très belle réponse. Le sacrifice, au sens propre, dit-il, désigne ce que l'on offre à Dieu comme témoignage de l'honneur qui lui est dû spécialement en vue de l'apaiser. Un sacrifice, c'est ce que l'on offre à Dieu pour témoigner l'honneur qu'on lui doit, et en vue de l'apaiser, pour se réconcilier éventuellement avec lui. De là vient que saint Augustin écrit dans la Cité des Dieux, de Dieu, « Et vrai sacrifice, toute œuvre accomplie, en vue d'adhérer à Dieu et d'établir avec lui un saint commerce, c'est-à-dire toute œuvre que l'on réfère au bien dont la possession peut nous rendre véritablement heureux. » Or, le Christ, ajoute saint Augustin, s'est offert lui-même pour nous dans sa passion. Et que le Christ ait subi volontairement la passion, cela a été souverainement agréable à Dieu, car le motif en était la charité. Voilà pourquoi cela a été agréable à Dieu, car le motif en était la charité. Il est donc manifeste que la passion du Christ a été un vrai sacrifice. Comme le remarque encore saint Augustin, un peu plus loin, de ce vrai sacrifice, les anciens sacrifices des saints étaient des signes multiples et variés. Ce sacrifice unique était symbolisé par de nombreux sacrifices, de même qu'une seule réalité est désignée par de nombreux mots, afin qu'il fût grandement recommandé sans aucun ennui. Et bon, c'était logiquement les figures qu'on en avait de l'unique sacrifice du Christ dans les multiples sacrifices de la loi ancienne. Sacrifice d'Holocauste, sacrifice pacifique, etc. Tous ces sacrifices, oui, qui se multipliaient comme cela sans cesse, c'était quelque chose d'épouvantable. Si on essaie d'imaginer ce qui se passait au temple de Jérusalem, alors le sang coulait à flot en permanence. C'est quelque chose de... Ça devait, il paraît que ça sentait très mauvais en plus, parce que... Bon, enfin voilà. Heureusement que ça a changé tout cela. Et bien, tous ces sacrifices multiples, vous voyez, tout cela, mais c'était pour essayer de figurer, de représenter, de donner une petite impression de la perfection, de l'unique sacrifice du Christ. Un petit peu comme la création. Vous voyez, la création, la multitude des perfections qu'il y a dans la création, tous ces êtres infiniment variés, et par leur harmonie, leur beauté, leur ordre, etc., ont pour but de nous donner un petit reflet de la perfection de Dieu. Oui, en regardant la perfection de la création, tant que l'homme ne l'a pas trop démolie, oui, on a une petite idée de ce que peut être la perfection et la beauté de Dieu. Oui, c'est le but de la création, c'est son rôle, donner une image de Dieu, de la beauté de Dieu. Oui. Et bien un petit peu de la même façon, oui, tous ces sacrifices de l'ancienne loi cherchaient à donner une petite représentation, une petite image de la perfection, de ce sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Augustin note dans son livre encore sur la Trinité, il y a quatre choses à considérer dans tout sacrifice, celui à qui on l'offre, celui qui offre, ce que l'on offre et pour qui on l'offre. Or, le même, seul, unique et véritable médiateur qui nous réconcilie avec Dieu par le sacrifice de la paix devait demeurer un avec celui à qui il offrait ce sacrifice, son Père, l'unité dans la divinité. Il devait ensuite réunir en soi dans l'unité ceux pour qui il l'offrait. Donc il s'unissait, il faisait un avec l'humanité. Être à la fois et identiquement l'offrant et l'offrande. Donc celui qui offrait et celui qui était offert. Voilà ce qui fait la perfection du sacrifice de notre Seigneur. Et ce sacrifice, bien sûr, eh bien, réalise la perfection du sacrifice et obtient tous les effets d'un sacrifice. Ces quatre effets, ces quatre fins du sacrifice de la croix que nous retrouverons dans la messe, qui seront les mêmes fins du sacrifice de la messe. Ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est d'abord un sacrifice d'adoration. D'abord, hein, la première chose, vous voyez, la première intention de notre Seigneur sur la croix, eh bien, c'est de rendre à son Père tout honneur et toute gloire. Cet honneur et cette gloire que nous lui refusons, que nos offenses lui tentent de lui ravir, etc., eh bien, lui, il le lui rend par son sacrifice de la croix. C'est donc d'abord un sacrifice d'adoration. Donc, c'est la première finalité, la finalité qu'on appelle latrotique, le culte de l'atrie, l'adoration, oui. Sacrifice latrotique, par l'obéissance, la soumission à la volonté de son Père. Et c'est là, justement, l'expression de l'acte d'adoration le plus amoureux, qui soit jamais monté de la terre vers le ciel. Si le Père m'aime, c'est que je donne ma vie. Donc, première finalité, l'adoration, sacrifice latrotique. Ensuite, ce sacrifice, bien sûr, cette fois, on peut considérer du côté des hommes. Là, c'est du côté de Dieu, donc, oui. Maintenant, du côté de celui à qui il s'est uni, du côté des hommes, eh bien, sacrifice propitiatoire. Et cela est essentiel, hein, bien sûr, au sacrifice de la croix, sacrifice propitiatoire. Et n'oublions pas que si les hommes n'avaient pas péché, mais ce sacrifice de la croix n'avait pas sa raison d'être. C'est pour rendre à son Père la gloire qui lui est due, mais en détruisant le péché. Pour que Dieu soit glorifié, il faut que le péché soit détruit. Que les hommes soient libérés du péché. À ce moment-là, Dieu est glorifié dans tous les hommes, dans tous ses saints. Donc, sacrifice qui, pour être véritablement latrotique, doit être également propitiatoire. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Et c'est gravissime. Si un jour on retire de la messe cette finalité propitiatoire, il n'y a plus de messe. Il n'y a plus de messe. Et cela a été anathémisé par le Concile de Trente. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est qu'un sacrifice d'action de grâce et de louange, etc., qu'il soit anathème. Pas moi qui l'ai dit, ça, c'est le Concile de Trente. Non. Sacrifice propitiatoire. Il s'agit de détruire le péché pour apaiser son Père, pour satisfaire à la justice, justement. Oui. Donc, obtenir le pardon de Dieu et libérer la miséricorde. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime de propitiation pour nos péchés. C'est dans la Sainte Écriture. Il est lui-même une victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Saint Jean qui dit cela dans sa première épître. Non seulement pour nous, mais également pour le monde entier. C'est vrai que notre Seigneur a offert un sacrifice propitiatoire pour le monde entier, pour tous les hommes. Mais cela ne veut pas dire, malheureusement, que tous les hommes seront effectivement pardonnés, parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'approcher de la croix. Alors, il a prié pour eux, il s'est offert pour eux, mais ils n'en veulent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Lui, il le veut, mais eux ne le veulent pas. Et donc, sacrifice propitiatoire, hein, qui contrebalance, si l'on peut dire, le péché, qui donc nous rachète et nous réconcilie C'est une notion de rachat. Oui, notre Seigneur a payé la dette. Il nous a rachetés. Nous étions la propriété de Dieu par la création. Par la création, nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes la chose de Dieu. Nous nous sommes dérobés à la main de Dieu par le péché. Nous avons échappé à la souveraineté de Dieu. Eh bien, par la croix, le Christ nous rachète. Il nous rend à son Père. Il nous remet, si on peut dire, dans les mains de son Père. Troisième finalité, troisième effet du sacrifice de la croix, eh bien, c'est la finalité eucharistique. Et c'est ainsi que la messe est désignée, par l'Eucharistie. C'est l'action de grâce. C'est la suprême action de grâce. Oui, notre Seigneur sur la croix rend des grâces. Et c'est frappant de voir comme toute sa vie, d'ailleurs, il n'a cessé de rendre grâce à son Père. Lui rendant grâce, justement, bien pour... pour ce dessein de miséricorde. C'est un grand mystère, notre Seigneur sur la croix. À la fois dans le dénuement et l'anéantissement extérieur et intérieur, quelque chose d'épouvantable, cette dérédiction du Christ sur la croix, et en même temps la joie la plus parfaite. L'action de grâce. Rendons grâce à son Père, et bien de faire miséricorde aux hommes. Oui. Mystère de joie, et je pense qu'on peut comprendre un peu quand même, ça doit nous arriver, j'espère, si on n'est pas trop dénaturé quand même par moments, des souffrances qu'on accède, moi je sais pas, une maman pour ses enfants, etc., qui accède de souffrir des choses parfois terribles, et qui au fond d'elle-même, connaît une joie, parce qu'elle sait que par sa souffrance, elle va faire du bien à son enfant, ou je ne sais quoi. C'est des choses quand même que nous comprenons un temps soit peu, mais voilà. Voilà ce qu'a connu le Christ, voilà ce qu'il a vécu. Alors, multipliez ça par 100, par 1000, par je ne sais combien, c'est sûr. Action de grâce. Et nous le voyons même au moment où il institue son sacrifice dans la scène, il le fait en rendant grâce. Il rend grâce, il bénit le pain, il le rend, etc. Donc c'est dans une action de grâce. Et c'est un sacrifice donc d'action de grâce. Et puis enfin, c'est la finalité, la quatrième finalité impétratoire. C'est la demande. C'est une suprême, c'est la plus grande des demandes. Et il est certain que Dieu ne peut pas ne pas exaucer la prière de son Fils. Tout ce que son Fils lui demande sur la croix, il est bien évident qu'il lui accorde. Il ne peut rien lui refuser à ce moment-là. Le Christ, dans les jours de sa chair, ayant offert des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, avec un grand cri et des larmes, fut exaucé à cause de sa révérence. Saint Paul aux Hébreux, toujours. Et ces quatre finalités du sacrifice de la croix, ce sont les mêmes que nous retrouvons dans le sacrifice de la messe, puisque c'est le même sacrifice, puisqu'il y a identité entre le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe. Et ce sacrifice rédempteur, nous parlons d'un unique sacrifice rédempteur, effectivement, il est unique, il n'y en a qu'un. C'est le sacrifice d'un Dieu, ne l'oublions pas. Bien sûr, il s'est déroulé dans le temps, mais c'est le sacrifice d'un Dieu. Jésus-Christ est Dieu, et son sacrifice est donc le sacrifice d'un Dieu, sacrifice d'un homme, mais également, tout uniment, sacrifice d'un Dieu. Et donc, ce sacrifice, il est habité par l'éternité de Dieu, par l'éternité divine, et qui rend... ce sacrifice capable justement d'illuminer tous les temps des hommes. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Tout. C'est tous les hommes et tous les temps. Il attire tout à lui quand il est élevé de terre. Parce qu'il est Dieu. Et il suffit de ce sacrifice, il n'est pas nécessaire de répéter le sacrifice. Ce sacrifice de la croix suffit. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, dit saint Paul aux Hébreux. Non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, après nous avoir acquis une rédemption éternelle. Il nous a acquis une rédemption éternelle. Donc on ne peut pas répéter quelque chose d'éternel, ce n'est pas possible. Il s'est manifesté maintenant à la consommation des siècles une seule et unique fois pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même. C'est constamment, ouais, cette pensée de l'unicité du sacrifice du Christ. Après, il s'est offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, etc. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ayant offert pour les péchés un sacrifice unique, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Voilà. Donc, il n'est pas besoin, il n'est même pas possible de renouveler cette oblation, de répéter cette oblation. Elle est unique. Une seule oblation. Et la conclusion, bien précisément, c'est Saint Paul, c'est oui, toujours Saint Paul aux Hébreux. Là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'oblation pour le péché. Mais alors, la messe, qu'est-ce que c'est que la messe ? Eh bien, la messe, c'est tout simplement l'application, l'actualisation, la représentation, mais au sens étymologique du mot représenter, c'est rendre présent un acte unique. Cet acte est unique en lui-même, mais la messe le rend présent. Elle l'actualise. Oui. On ne peut pas répéter l'oblation du Christ, elle est unique. Il n'y a que lui qui l'a offerte, elle est unique et elle suffit pour la rédemption de l'univers entier. Oui. La messe, donc, ne recommence pas l'oblation du Christ, non, elle la rend présente, elle la rend actuelle pour toutes les générations, afin que toutes les générations puissent prendre contact, rentrer en contact avec l'acte rédempteur. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, chaque fois que nous donc célébrons le Saint Sacrifice de la Messe, eh bien, nous annonçons la mort du Seigneur, c'est-à-dire pratiquement, ben, nous la rendons présente, oui, cette mort. Il ne meurt pas à nouveau, bien évident, il ne peut pas mourir deux fois, on ne meurt qu'une fois, mais nous rendons présente la mort du Christ. Saint Ambroise, justement, écrit, « Si nous annonçons la mort du Seigneur, nous annonçons la rémission des péchés. » Et si nous annonçons la mort du Seigneur, nous annonçons donc par le fait même la rémission des péchés. Si chaque fois que son sang est répandu, il est répandu pour la rémission des péchés, je dois toujours le recevoir pour que toujours il me remette mes péchés. Moi qui pèche toujours, Saint Ambroise qui dit ça, alors, qu'est-ce qu'on peut dire nous ? Moi qui pèche toujours, je dois avoir toujours un remède. Voilà, et ce remède, eh bien, il est unique, c'est l'oblation de Christ sur la croix. Et donc, pas d'autre oblation pour le péché, mais présence, application, actualisation de cette unique oblation, oblation éternelle. C'est ce que dit de très belle façon une collecte, une secrète, pardon, du 9e dimanche après la Pentecôte. Il faut, quand on assiste à la messe, il faut aimer lire et méditer ces petites prières, ouais, de la liturgie, bon, la collecte, l'oraison, mais la secrète, la post-communion. Il y a des merveilles, des trésors de spiritualité, de doctrine, de théologie, des choses extraordinaires. Mais trop souvent, on pense à autre chose à ce moment-là. Bon, enfin. Voici ce que dit cette secrète du 9e dimanche après la Pentecôte. Concede nobis, ben donc accordez-nous, Seigneur, de bien fréquenter ces mystères, puisque chaque fois que la mémoire de cette hostie est célébrée, donc chaque fois que nous faisons mémoire de ce sacrifice, chaque fois que nous faisons mémoire de ce sacrifice, opus nostre redemptionis exercitur, l'œuvre de notre rédemption s'accomplit. C'est beau, hein? Magnifique, ça. Il y a comme idée pendant 20 ans là-dessus. Essayez. Et oui, chaque fois, ouais, chaque fois qu'on célèbre la messe, chaque fois que nous faisons mémoire de cette hostie, l'œuvre de notre rédemption s'exerce. À chacune de la messe, à chacune des messes auxquelles nous assistons ou auxquelles nous n'assistons pas, ça, c'est égal. Eh bien, l'œuvre de notre rédemption s'accomplit. Et si, je crois que si on comprenait ça, je crois qu'on pleurerait souvent à la messe. c'est sûr. C'est sûr. Eh oui, il y a là un texte de Julien Green que j'ose pas vous lire parce qu'il est méchant quand même. Il va un peu fort, mais enfin, il y a un petit quelque chose quand même. Il y a un petit quelque chose. Julien Green, bon, c'est peut-être pas un père de l'Église, mais enfin. Mais il est méchant, comme je trouve. Il est un peu injuste. Hein. Mais il y a un peu de ça quand même. Les personnes qui reviennent de la messe parlent et rient. Elles croient qu'elles n'ont rien vu d'extraordinaire. Elles ne se sont doutées de rien parce qu'elles n'ont pas pris la peine de voir. On dirait qu'elles viennent d'assister à quelque chose de simple et de naturel, et cette chose, si elle ne s'était produite qu'une fois, suffirait à ravir en extase un monde passionné. Elles reviennent du Golgotha et elles parlent de la température. Bon, c'est sévère, mais... Bon, voilà. Cette indifférence empêche qu'elles ne deviennent folles. C'est vrai, si on réalisait, je crois qu'on deviendrait fou. Si on leur disait que Jean et Marie descendirent du calvaire en parlant de choses frivoles, elles diraient que c'est impossible. Cependant, elles-mêmes n'agissent pas autrement. Elles viennent d'assister à une exécution capitale. Au bout d'un instant, elles n'y songent plus. Ce manque d'imagination empêche qu'elles ne soient prises de vertige et qu'elles ne meurent, etc. Bon. Il y a un petit peu de ça quand même, je crois. Et c'est bien que c'est un mystère, hein, difficile. Hein, bon, mais je crois que... Pourquoi je crois qu'il est important d'essayer d'approfondir un peu ce mystère pour ben, mieux en vivre, puisque c'est notre vie, c'est notre salut. Là, hein. Notre vie dépend de la messe. Hein. Notre vie est suspendue au sacrifice de la messe, au sacrifice de la croix. Et donc ça mérite eh bien que l'on comprenne un petit peu ce qui s'y passe. Là. J'avais un autre texte ici là, qui dit une chose tout à fait vraie. Hein. C'est une histoire d'une persécution en 304 à Carthage. Persécution de Dioclétien. Et on arrête tous ceux qui célèbrent donc le Saint Sacrifice, etc. Puis un jour, bon, des chrétiens sont arrêtés, torturés, etc. Le prêtre est mis à la torture. Et à ce moment-là, celui chez qui se déroulait la cérémonie, eh bien, s'avance et se dénonce. Le responsable, c'est moi. La réunion a eu lieu chez moi. Alors le proconsul l'interroge. Y eut-il des assemblées interdites chez toi ? Oui. Nous avons célébré le jour du Seigneur. Pourquoi leur as-tu permis d'entrer ? Ce sont mes frères, je ne pouvais le leur défendre. Tu aurais dû le faire. Je ne pouvais le faire. Nous ne pouvons vivre sans célébrer le repas du Seigneur. Nous ne pouvons vivre sans célébrer le repas du Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans la messe. Je m'arrête pour ce soir, à moins qu'il y ait des questions à poser.